101.5 FM.
Savourez nos différences.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. On va parler de tricot, on va parler de harcèlement scolaire, on va parler d'aventure, on va parler de science-fiction, d'espace et d'enfants et d'autres trucs. Tout ça, c'est sur les cases de Seb. Mais d'abord, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas fait de moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, bien entendu, je suis avec vous pendant une heure et je ne suis pas tout seul, je suis avec Fabien, comme d'habitude. Ça va Fabien ?
Ça va et toi ? Impeccable.
Ça va. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le chat de Radio G, sur le www.radio-g.fr, onglet chat, et n'hésitez pas à nous poser vos questions, vos réactions sur les BD dont on va parler. Si vous avez des besoins supplémentaires de questions, on essaiera d'y répondre, ou simplement pour faire coucou, ça nous fait plaisir. De quoi on va parler ce soir ? Je vais commencer par vous emmener en vacances, alors encore un peu loin.
Ouais, mais ça va vite arriver, donc c'est cool, c'est un avant-goût.
Un petit avant-goût. On va partir dans la forêt d'Orica, une BD de Paco Sordo, aux éditions Dupuis. Je te la passe.
Merci.
Alors déjà, c'est une BD qui flash. Elle est dans des tons orange DDE, orange bien fluo. Qui claque bien, et on a une espèce de monde à l'envers, puisque la couverture peut se regarder dans les deux sens. On a un papy avec une petite fille et un cochon, et un jour et la nuit. De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'une petite fille qui va être envoyée en vacances chez son grand-père, qui vit dans une forêt magnifique. Oui, elle est magnifique, mais elle est aussi magique. Alors moi, tout de suite, quand on m'a sorti le speech, ça m'a parlé de Souvenirs de Gravity Falls. Je ne sais pas si c'est une série que tu as déjà vue.
Non, je ne connais pas.
C'est une série qui est légendaire, où on suit deux jumeaux qui vont en vacances d'été chez un oncle qui est loufoque, qui vit au milieu d'une forêt magique et qui arnaque tout le monde. Donc c'est vrai que le synopsis, au départ, on se dit « Waouh, ça ressemble un peu ». Là, c'est pas tout à fait la même chose. L'époque est un petit peu différente et on se rend compte très vite d'une chose, c'est que le grand-père est simplement toléré dans cette forêt magique qui recueille des cochons magiques, des lutins, des gnomes, un corbeau qui vole des yeux. Il y a plein de créatures, il y a même des arbres qui parlent et toutes ces créatures-là, elles vivent là. C'est leur chez elles. Il y a même des divinités qui se sont réparties la forêt, il y a une divinité de jour et nuit qui ont coupé la forêt en deux, chacun gérant sa propre zone. Et en fait, tous ces animaux-là fantastiques tolèrent le grand-père. Mais visiblement, ils ne tolèrent pas sa petite-fille qui vient d'arriver. Et ils vont commencer à lui jouer des tours. Je ne vais pas vous en parler plus, mais il y a des raisons à ça, des raisons qui vont permettre à la petite-fille de comprendre un petit peu son histoire familiale, des raisons aussi qui vont lui permettre de découvrir quelle est cette magie dans cette aventure. C'est un tome 1, c'est un tome d'installation, mais qui va quand même vachement vite. On est un petit peu dans le rythme des cartoons fast-paced à la Gravity Falls, hein. Ça s'arrête jamais. Il y a beaucoup d'humour, c'est franchement génial. Il y a beaucoup d'aventures. Si tu peux reprendre à l'intérieur, alors c'est la deuxième de couverture, c'est ça au début ? Je suis perdu sur les... voilà. Tu as une espèce de grande carte avec des symboles en haut et en bas qui te permettent de repérer. Ça, c'est cette carte-là, c'est ce que tu connais de l'histoire au tout début. Et tu noteras qu'en quatrième de couverture, la carte est tout à fait différente.
On voit son avancée le long de l'histoire, en fait. Ça fait vraiment la découverte de la map, comme dans les jeux vidéo.
C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est fun, c'est qu'en plus, on peut suivre son aventure sur cette carte au fur et à mesure de l'avancée. Petit point rigolo, c'est que, bon, c'est une aventure, il y a de la recherche, il y a de la découverte, il y a un petit peu de chasse au trésor, et parfois, vous allez voir des textes que vous n'allez pas pouvoir traduire comme ça de prime abord. Eh ben, je vous laisserai vous débrouiller, puisqu'il y a une petite astuce qui vous permettra de comprendre ces textes et ces petits messages cachés. Encore un point qui me rappelle beaucoup Gravity Falls. Graphiquement, on est sur un dessin qui est à la fois rond et à la fois pointu. C'est un côté très enfantin qui marche bien. Moi, j'ai plongé très facilement dedans. Graphiquement, c'était plutôt cool. On a des beaux aplats de couleurs, il y a beaucoup de contrastes qui fonctionnent bien. Et ça marche vraiment nickel. Je sais pas ce que toi t'en penses, Fabien.
Oui, je trouve ça chouette. C'est coloré, pastel un peu, mais vive.
C'est un pastel ça... acidulé,
ouais,
je dirais.
Ouais, tout à fait. On est sur... c'est chouette. Et c'est assez dégagé. C'est-à-dire, c'est des grandes cases.
Ouais.
Ce qui permet vraiment d'être aéré et de profiter des petites farces, des petits gags qu'on peut voir dans les différentes pages là, sur lesquelles je suis tombé. Et ça, j'aime bien. Parce que ça va bien avec ce type de récit, je trouve, d'avoir vraiment ces grandes cases qui permettent de pas être... trop sur le détail, mais plus sur la globalité. Non, ça a l'air chouette. En tout cas, c'est punchy. Ça donne envie de découvrir.
Ouais, c'est vraiment une belle aventure de vacances. Je pense que ça, c'est une BD. Si quand vos enfants partent en vacances, mettez-la dans son sac à dos. Ils partent chez les grands-parents à la campagne. Ils se créeront des aventures avec ça, non seulement dans la BD, mais en vraie vie, parce qu'il y a moyen de créer plein de choses. Et puis, en tant que lecteur, si vous avez compris les petites astuces pour déchiffrer un petit peu certains éléments, vous allez pouvoir anticiper quelques petites mésaventures que va vivre l'héroïne.
Ah, sympa.
Et j'ai vraiment trouvé la BD très intelligente, très bien construite. Ça prend pas les gamins pour les idiots. Moi, le seul reproche que j'aurais éventuellement à lui faire, s'il fallait lui en faire un, c'est que ça va clairement un peu trop vite à mon goût. Mais je pense que les enfants, ils ont besoin que ça bombarde. Et ça passe nickel, quoi. Voilà.
Ok.
Je te laisse redonner les références.
Ouais, ça marche. Donc, c'est La forêt d'Oreca de Paco Sordo aux éditions Dupuis.
Parfait. Et c'est pas un service de presse, hein, je précise.
Tu sais en combien de tomes c'est prévu ou pas ça?
J'ai pas regardé. Il okay. Faudrait que je regarde. Je vais chercher ça pendant que tu vas faire ta chronique, du coup, tiens.
Ouais, et ça roule.
Comme on est bien.
Ouais.
Allez, je lance ton générique qui est là.
Taizoku-oni! Kore wa nare!
Nani? Omae wa mou shindeiru.
Mais de quoi tu nous parles?
Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un titre qui s'est terminé, où la série s'est finie en fin d'année dernière en France. Donc, je vais vous parler des Enfants d'Hippocrate. C'est donc une série chez Mangetsu, qui est parue au Japon en 2020, qui a fini de paraître chez nous en novembre 2024, et qui comporte 10 tomes. On est au dessin et scénario de Toshiya Higashimoto. Et donc là, on va être sur un seinen, tranche de vie, un peu drame aussi. Mais on va vraiment être sur quelque chose de plutôt assez cool, mais sérieux en même temps. Donc, je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Donc, le dévouement...
Je t'interromps juste
ouais,
vite fait.
Dis-moi, vas-y.
Parce qu'on salue Matt49 sur le chat, qui voulait faire un stage chez nous. Alors, si tu veux faire un stage dans l'émission, c'est possible. Après, voilà. Si tu veux faire un stage dans la radio elle-même, il faudrait que tu contactes directement la radio ou que tu viennes directement dans les studios pour pouvoir. Voilà.
Ok. Bah oui,
on
c'est
pourra
une bonne idée,
ça. Il y a pas de souci. Bah ouais.
Bah ouais, c'est toujours sympa.
Permet de découvrir des choses et il y a plein de choses à faire en radio.
Ah oui, ça c'est sûr, j'imagine.
Reprenons, Fabien.
Alors du coup, de quoi ça parle? Donc, le dévouement des professionnels de la santé est-il perçu à sa juste valeur? Rien n'est moins sûr. Dans une société qui pousse à la rentabilité de la pratique médicale, on ne demande plus aux pédiatres d'aimer les enfants, mais de fournir un service. Et certains parents japonais se comportent en véritables monstres surprotecteurs, exigeant un accès immédiat et illimité aux soins pour leur progéniture. Le mot d'ordre, tout de suite. Mais il en faut plus pour décourager Mako Suzukake, un jeune praticien en devenir qui croit en son métier dur comme fer et s'occupe de ses petits patients avec respect, enthousiasme et bonne humeur. Son humanisme lui permettra-t-il d'accomplir les miracles dont ses enfants ont tant besoin? Donc là, avec ce titre, on va être loin des séries d'action survitaminées. Ici, au contraire, nous allons tendrement et de manière très émouvante plonger dans le quotidien de Mako, ce jeune pédiatre jovial, très empathique et quelque peu lunaire. C'est vrai qu'il a un tempérament, ouais, un petit peu, il va dans les nuages un peu, il est assez drôle. Et ce jeune homme, donc, qui a un passé familial un peu douloureux, qu'on va très vite découvrir dans la série, amène beaucoup de douceur et de joie, en fait, au niveau de ses patients. Et il traite aussi bien les enfants, donc, puisque c'est son métier, mais il arrive à avoir un contact aussi avec les parents pour prendre le recul et toujours avoir ce côté très doux et très empathique.
Il traite les enfants et le contexte familial, du coup?
Alors, pas forcément, mais disons que, vu qu'on est amené à être dans l'hôpital avec lui, il y a le contexte familial qui forcément va se mêler au tout, et lui va aider un peu les patients, quand ils sont un peu plus âgés que les tout petits, à se sentir bien et à faire en sorte que du coup des choses se passent avec leur famille aussi, malgré tout. Ça fait quand même des petits liens comme ça, un petit peu dans toutes les histoires qu'on rencontre, puisque au fur et à mesure de la série, on va suivre des différents patients, différents âges. Donc ça peut aller du tout petit jusqu'à l'ado de 15-16 ans, voilà, avec des problématiques forcément différentes. Et du coup, l'auteur, il arrive avec une grande délicatesse à nous faire ressentir toutes les émotions traversées par ses enfants. Ça peut être la peur, la colère, la tristesse, mais aussi tout son contraire malgré le fait d'être à l'hôpital, de la joie, du bonheur, de l'insouciance. Et c'est vraiment cette insouciance-là que lui, je trouve, arrive à faire ressortir. Et sans oublier, bien entendu, le personnel hospitalier qui, à part Mako, est aussi présent au quotidien et va ramener des touches de tranches de vie plus adultes aussi au milieu de tout ça. Notamment le contexte familial de Mako qui est assez particulier, où il va se retrouver très rapidement à aller travailler avec son père, avec qui il n'avait plus de contact depuis 10 ans, suite à la mort de sa mère.
Okay.
Donc, et son frère qui en plus va arriver par-dessus. Voilà, ça va faire tout un contexte un petit peu particulier au sein de l'hôpital. Mais lui, avec toujours en ligne de mire l'objectif de bien traiter ses patients et que tout se passe bien pour eux, et pas seulement dans le but que médical. C'est-à-dire, c'est pas je suis froid et tout ça, non. Il est pas du tout dans ça, ce qui est l'opposé de son frère qui, lui, est vraiment dans ça. Donc, du coup, ça a fait des tensions un petit peu tout le long de la série. Du coup, ça permet vraiment de ressentir plein d'émotions. Moi, j'adore cette lecture. On va se retrouver à être ému par des choses qui peuvent être tristes, mais aussi des choses qui peuvent être joyeuses. Et donc, j'aime bien ce passage en vague un petit peu tout le long de la série. Côté dessin, on va être plutôt sur un trait assez clair, précis et réaliste. On est vraiment sur du seinen, donc c'est vraiment le type de dessin qu'on peut retrouver habituellement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les visages et les regards sont bien travaillés. Et ça permet tout de suite de comprendre en fait dans quel état d'esprit sont les personnages. Et c'est ça qui amène à faire ressortir énormément les émotions au lecteur. Après, les cases sont bien fournies, c'est pas ultra détaillé niveau décor, mais moi, pour ma part, c'est vraiment ce que j'attends dans ce genre d'œuvre. De la tranche de vie, c'est un dessin équilibré et réaliste qui nous permet vraiment de ressentir les émotions. Et en ce qui concerne l'auteur, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a écrit Le bateau de Thésée, qui est une enquête en fait policière. Je me demande si j'en ai pas parlé.
Ça me dit quelque chose, c'est la question qui me venait.
J'avais un doute là en le disant, je me demande si j'en ai pas parlé. C'est une enquête en fait où il revient dans le passé, c'est en gros un peu à la Erased. Il repasse et du coup il va suivre toute une petite enquête pour trouver ce qui s'est passé quand il était jeune, son père qui est en prison au temps actuel, quoi. Et donc vraiment, d'ailleurs, que je conseille vraiment Le bateau de Thésée, c'est très très cool. Donc franchement, pour ceux qui aiment un peu la tranche de vie et les choses assez douces mais matures quand même, je conseille vraiment Les enfants d'Hippocrate. En plus, c'est terminé et ça se lit vraiment très très bien. Voilà.
Est-ce que tu penses que les jeunes peuvent le lire à partir de quel âge?
Sincèrement, il y a aucun. Je pense que dès 12 ans, même peut-être avant, ça peut être lu, parce que même le côté médical n'est pas. on n'est pas du tout dans le
c'est pas
dans
besoin, le sang y a pas de pathos, ou dans,
y a pas de... dans ah il y a pas du tout de pathos, vraiment pas, c'est doux. Et alors tu vas le lire avec tes yeux d'enfant, les adultes vont lire d'autres choses au niveau des relations qu'il peut y avoir des fois et tout ça, mais sincèrement ça peut être lu assez rapidement, il y a pas de souci là-dessus.
Cool.
Après, un enfant qui aime aussi ce genre de choses, c'est-à-dire sans action, et qui aime bien se poser et lire quelque chose d'assez chill, on va dire.
Ouais, il faut découvrir ce genre de choses.
Ouais,
aussi.
Complètement, ouais, tout à fait. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Donc, c'est Les Enfants d'Hippocrate de Toshiya Higashimoto chez Mangetsu.
Eh ben, parfait. On en profite pour refaire coucou à Matt, hein, parce que il dit qu'il nous adore. Donc, ça fait tellement plaisir d'avoir
c'est
ce
gentil,
genre
ça.
De petit message. Donc ça, c'est super cool. On lui envoie plein de bisous.
Carrément.
Moi, je vais continuer avec Mamie Roquette de Patrick Wirbeleit et Stéphane Lompe aux éditions Sarbacane. Comment expliquer de quoi ça parle? Ça, j'aurais mon jingle What the Fuck. On l'avait là tout à fait tout de suite. Imaginez un monde dans l'espace, dans le futur, où... il est absolument interdit de tricoter. Ouais, parce okay. qu'il y a une raison, mais je ne vais pas vous la dévoiler. Et on suit un agent de police robot qui est en train de poursuivre un méchant. Et ce méchant va, par un petit tour de passe-passe technologique, intervertir sa place, la place du robot, pardon, avec celle d'une petite grand-mère dans une maison de retraite qui, elle, est justement en train de tricoter. Et là, on va suivre en parallèle deux choses. La grand-mère qui se retrouve coincée dans l'armure du robot policier et qui, par conséquent, devient le robot policier. On lui laisse pas trop le choix. Et puis, le robot qui, de son côté, lui, va tenter de se faire... de passer inaperçu dans cette maison de retraite où les petits vieux ont une vie bien tranquille pour, justement, qu'il se passe rien. Et c'est complètement barré. Il y a beaucoup d'action. On a cette petite mémé qui est tout à fait candide. Elle comprend pas pourquoi les gens ils ont pas le droit de tricoter. Et puis on va lui confier la mission d'aller recruter, d'aller arrêter un méchant. Alors j'ai perdu son nom, mais elle va essayer d'aller chercher ce méchant-là spécifiquement. Et elle a un petit quiproquo qui fait qu'elle aura quand même raison. Et pendant ce temps-là, on a notre policier robot qui commence à sympathiser avec les gens de la maison de retraite parce que il est cool en fait, il y a aucune raison qu'il les agresse et c'est vraiment très drôle. Ça se lit très vite parce que c'est vraiment tout cool, tout chouce et c'est très très drôle. Moi je me suis marré de bout en bout. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi.
Ça a l'air bien décalé et bien barré, donc ouais. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer en effet.
Et puis en plus, il y a un design très particulier qui est un peu... Alors, il n'est pas filiforme, mais les personnages sont assez allongés. Mais c'est l'action, elle est bien rendue, c'est rythmé. Tout marche bien, en fait.
C'est très clair, très... En fait, il y a très peu de choses dans les cases, finalement.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup de tout ça, mais ça permet en effet de tout de suite être... on a beaucoup de cases où c'est juste un fond uniforme d'une couleur et le personnage devant.
Mais on n'a pas de sensation de vide.
Non. C'est ça qui est assez marrant.
Et ça marche, c'est vraiment cool. Donc voilà, si vous voulez vous marrer, Mamie Rocket, c'est un petit moment de bonheur qui est très drôle, qui marche très bien. Et voilà. Ça paye pas de mine. C'est un petit format en plus, mais un peu comme La Forêt d'Oreca. Et ça marche très bien.
Oui, ça doit se lire assez vite. Parce que je vois, il y a quoi? Il y a 88 pages?
Ouais, c'est
ouais,
ça.
C'est ça, ouais.
Et on peut avoir une suite, même si je suis pas persuadé que ce soit prévu pour. Voilà, la porte reste ouverte.
Ok.
Je te laisse redonner les refs.
Ouais. Donc c'est Mamie Roquette de Patrick Wirbeleit, Stéphane Lompe de aux éditions Sarbacane.
Merci.
Désolé si j'ai écorché les noms.
Non, mais t'inquiète pas. On n'a pas fait bac plus 10 nom d'auteur BD.
C'est ça.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau qu'on a déjà entendu dans l'émission, mais il y a quelques temps déjà, et qui va augurer un petit peu l'ouvrage dont on va parler juste après. Je vous fais une pause avec Le Cartel des Cartables de Aldebert, le pendant métal de Aldebert. si ça veut bien se lancer. Bowling.
Chaque jour de la semaine, accusé au final de n'être que moi-même. Fragile et sans armure, j'ai le cœur battant. Moi qui rase les murs, parcours du combattant. Entre les représailles et les ultimatums, et ceux nos samouraïs, Yakuza de trois pommes. Entendez ma prière sous la lune. Out of my way. Écoutez la colère sous ma plume. Le cœur dans un étau, je suis à leur merci. Les parrains du préau en ont décidé ainsi. Y'a pas de raison, je suis juste une cible. Dans une drôle de prison aux barreaux invisibles. Quand l'espoir s'envole sous le poids des menaces, c'est l'enfance qui s'étiole et nos rêves qui s'effacent. Pour qu'hier, entendez ma prière sous la lune. Pour qu'il fisse, écoutez la colère sous ma plume. Entendez ma prière sous la lune. All of my way. Écoutez la colère sous ma plume.
Et ouais, vous êtes de retour sur la case de Seb. On vient d'écouter Aldebert avec Max Cavalera et le cartel des cartables. Une chanson qui parle de harcèlement scolaire. Tout comme le sujet de la BD qui vient tout de suite. Vous avez vu les transitions.
Oh, comme c'est bien fait.
Je vais vous parler d'une BD qui m'a un petit peu déstabilisé. Tiens, je vais te la basculer. Ça s'appelle L'Enfantôme. C'est de Jim Bishop, sauf erreur de ma part, et c'est publié aux éditions Glénat.
C'est ça, tout à fait.
T'as vu. Déjà, parlons rapidement de la couve. On y voit un jeune garçon boutonneux, la bouche ouverte, en gros plan. Il y a un petit côté un peu fisheye. Et tout autour de lui, ce sont que des yeux.
Elle fait peur un peu quand même, la couve.
Ouais, beaucoup. Ouais. Et au milieu de sa bouche, il a quoi?
Un fantôme.
Un tout petit fantôme.
On pourrait presque croire que c'est de l'horreur, quasiment, avec une couve comme ça.
Et on n'en est pas très loin. Clairement, on n'en est pas très loin. J'explique. C'est une BD qui m'a quand même pas mal déstabilisé sur plein de points. Graphiquement, scénaristiquement parlant, et puis le sujet, il est abordé d'une manière un petit peu particulière. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui a beaucoup de boutons et qui, parce que ses parents sont pas forcément très riches, se retrouve un petit peu en marge de ses camarades. Tout le monde voulait un tel type de pantalon parce que c'était la mode, et au moment où il a le bon type de pantalon, bah, la mode elle est passée. Et lui, il est content d'avoir son pantalon, mais bon, il est plus du tout tendance, quoi. Et il fait partie des moins bons élèves de son école, avec deux autres élèves. Et il va être convoqué par le conseiller d'orientation, qui s'appelle Monsieur Marano, sauf erreur de ma part, et qui est un énorme monsieur tout rond, et qui va leur dire, bah voilà, pour vous aider, on va mettre en place un contrat de scolarité. C'est simple, si vous n'arrivez pas à avoir votre examen, il va se passer un truc. Vos parents vont vous tuer. Et là, tu fais, quoi, attends, qu'est-ce que je viens de lire? Et en fait, tout est orienté comme ça. On va suivre les enfants qui ont un design à peu près normal, et tous les adultes de l'album ont une sorte d'aspect de monstruosité. Ils sont avec des visages complètement étirés, des têtes complètement barrées, complètement absents.
Ça fait flipper quand même un peu.
Ouais.
Franchement, j'ai vu des pages. Il y a des trucs.
Il y a des trucs. Ouais. Et en fait. Pourquoi c'est flippant? Pourquoi ces adultes sont déformés? C'est qu'ils représentent, pour moi, une peur que les enfants peuvent avoir de ce monde des adultes. Et ce sont des terreurs, en fait. Le conseiller d'orientation, qui est si énorme, en fait, ben on lui donne une présence et une imposition énorme. Et il y a une espèce de petite transition au milieu. Avec un gap dans le temps, un bond dans le temps, et on passe dans encore quelque chose d'autre avec des petits fantômes, tout mignons, et c'est hyper déstabilisant. Alors, on pourrait y passer beaucoup beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de significations, il y a beaucoup de choses, mais je peux comprendre que dans un premier temps, c'est une BD qui puisse déstabiliser. Mais on a vraiment cette opposition du monde des enfants dessinés, cool, même si le style graphique est un peu particulier, et le monde des adultes qui représente une certaine monstruosité, une certaine horreur, une certaine peur que peuvent avoir les enfants. Et c'est là où je te rejoins. On est clairement dans une histoire d'horreur.
C'est pour quel âge? Parce que là.
Moi je dis pas avant 16 ans.
Ouais.
Et je pense qu'à 16 ans, c'est le moment où tu peux avoir, commencer à avoir peut-être un recul sur ta scolarité et comprendre ces images-là.
Parce que sincèrement, il y a des planches d'adultes telles qu'elles sont faites, on dirait presque du Junji Ito, quoi.
J'ai exactement eu la même réaction que toi.
C'est fou, c'est globuleux, c'est tordu,
ils sont déformés, fondants, glissants.
Et c'est seulement quelques planches, et c'est comme là un crâne découpé. Tu fais, mais ouais, ça doit être assez perturbant à la lecture. Mais du coup, ça doit vachement renforcer le sujet qui est abordé, quoi.
C'est surtout qu'en fait, au début, on se pose la question du pourquoi. On voit ces adultes qui ont des comportements. Je sais pas, moi, le conseiller d'orientation dit, si t'as pas la moyenne, tes parents te tuent. Déjà, ça me fait marrer parce que j'y crois pas. Sauf que là, en fait, les enfants, eux, ils y croient. Alors, à ce moment-là, on se pose la question de qu'est-ce qui est fantasmé, qu'est-ce qui est réel.
Ouais, c'est ça, parce que après, c'est vrai que moi, je suis tombé, je pense, sur les pages où on voit la mère avec le couteau, où t'as l'impression que vraiment, qui va trucider son fils. Donc, tu dis, à quel point t'es dans le réel de l'imaginaire? Ouais, ça doit être assez perturbant au niveau lecture, ça peut être intéressant quand même.
Et la seconde partie, on passe vraiment dans un monde de bisounours avec des tout petits fantômes. Et au départ, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, petit à petit, on va comprendre que ce petit fantôme, il représente quelque chose. Et qu'il y a un message qui est un peu plus fin, un peu plus subtil que ça. Et c'est, ouais. En fait, Fabien, il parcourt la BD depuis tout à l'heure, il ouvre des grands yeux à chaque fois que tu tombes sur une page.
Des grands yeux, parce qu'il y a des doubles pages d'un seul coup où vraiment, on est sur des pages d'horreur.
Ouais.
Vraiment, clairement. Là, la double page que je viens d'ouvrir.
Oui.
Ouais, c'est de l'horreur. Ouais. Donc, on s'attend pas forcément à ça quand on voit le reste.
Donc, 16-18, hein. Pas plus, pas avant, je veux dire.
Ouais, non, ouais, pas avant 16 ans. Ouais, je pense pas, parce que, surtout si en plus le thème abordé, t'as un mix des deux. C'est-à-dire que t'as le thème qui peut être difficile, et avec en plus les images comme ça, ça peut, clairement, trop jeune, ça cauchemarde. Hein.
Ouais.
Un gamin de 12 ans, il prend ça, je pense qu'il dort pas le soir.
Hein. Même pour nous, ouais, tu vois, c'est ce qu'on parlait de Junji Ito tout à l'heure. Moi, Junji Ito me perturbe beaucoup, et effectivement, en retrouvant ça là-dedans, j'ai, oh là là, il y a des cases qui sont vraiment très déstabilisantes.
Ouais.
qui sont des fois
c'est en plus ouais, voilà, à chaque fois c'est vraiment fait en plus sur toute la hauteur parce qu'on est sur un, on n'est pas sur un tome manga en plus, là on est vraiment sur le tome BD, ouais. Donc grand format, il y a une seule planche énorme de monstrueuse et du coup non, c'est marquant en tout cas.
Et puis ben on va parler un petit peu du dessin quand même parce qu'on l'a très peu abordé, on a parlé des images, mais c'est un dessin qui est globalement assez rond, qui est plutôt agréable dans ses couleurs, sauf justement sur la partie adulte qui a vraiment cette espèce de dimension cauchemardesque et qui est vraiment horrifique.
Ouais. Ouais, on est sur un trait hyper réaliste hein, au final, ouais. On est vraiment et avec des tons assez pâles. C'est assez étonnant, ouais. C'est très peu, c'est coloré. Mais de manière un peu pâle.
C'est atténué, ouais.
Atténué, ouais, c'est ça. Pour éviter de donner l'impression que c'est trop joyeux, je pense.
Clairement. Ouais. Oui, clairement. Mais ouais, c'est déstabilisant et très intéressant à lire. Je pense que c'est une BD, on peut l'analyser pendant un bon moment. Il y a plein de choses. Et la deuxième partie, quand on arrive vraiment au milieu du bouquin et qu'on a cette espèce de gap dans le temps qui est passé... On arrive avec ces fantômes-là, on se dit « qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il me fait, l'auteur ?» C'est complètement barré.
Ça se lit un seul tome, hein, c'est un, ouais. C'est un one-shot. Hein.
Ouais, un one-shot. Okay. Moi, j'ai mis le temps à le lire, parce que faut digérer les pages d'horreur. Mais ça passe bien, et effectivement, moi, une fois qu'on a compris quel est le thème central et quelles sont la façon d'aborder ce thème-là, mais je trouve que c'est hyper intéressant à lire.
Ok, mais en tout cas, ouais, ça donne envie de tester.
Ben, je te redonne les références.
Alors, c'est L'Enfantôme de Jim Bishop aux éditions Glénat.
Eh ben, c'est top. Donc voilà pourquoi on parlait de harcèlement scolaire tout à l'heure.
Ouais, ça collait avec le thème.
On va partir loin dans l'espace avec The Prism. Je te le repasse, mais je l'ai déjà passé tout à l'heure.
Ouais, mais
avec le tome 2 et le tome 1, je vais le zapper, le tome 1 que je n'avais pas vu. Le tome 2 est arrivé courant avril et j'ai bouffé les deux tomes mais d'une vitesse. Déjà parce que, est-ce qu'on peut parler de cette couve qui est absolument géniale ? On a un personnage en gros plan avec à la fois un relief doré rouge qui lui fait une sorte de combinaison de casque au-dessus, et puis on a un vernis sélectif qui fait une espèce de logo par-dessus, qui est de toute beauté.
Quand tu me l'as montré la première fois, j'ai eu l'impression de voir Ulysse.
Ouais, il y a
le
un côté
personnage
d'Ulysse 31.
31.
Ouais.
Et c'est franchement, c'est dans l'espace avec la combi de cette couleur-là et tout, j'ai vraiment eu un côté Ulysse 31 en voyant la couve.
Ouais, alors il y a que ce personnage-là qui va te donner cette impression-là. Je t'invite aussi à retourner le bouquin. Au dos, tu as le personnage en combi et de la même manière, tu retrouves le vernis sélectif et puis la dorure qui, en plus sur ce tome-là, est rouge et rend ultra bien. C'est super beau.
C'est très beau,
hein.
Vraiment, ouais. C'est très très joli.
Donc, The Prism, c'est de Matteo De Longhis, c'est publié aux éditions Oxymore. Et de quoi ça parle ? Eh ben, c'est un récit de science-fiction déjà qui nous explique que dans un futur proche, la Terre souffre d'une pollution sonore qui commence à détruire la planète. Cette pollution sonore, elle a été nommée SOTW pour Smoke on the Water, puisque elle commence à se répandre sur l'eau, et elle tue toute forme de vie qui la rencontre. Les humains, pour lutter contre ça, ils ont commencé à créer des espèces d'amplis avec des ondes sonores qui vont lutter un petit peu contre cette pollution sonore, une espèce de contre-onde. Vous savez, quand vous mettez un casque anti-bruit, c'est un peu ce qui se passe. Vous avez un bruit qui est généré pour lutter contre le bruit externe, pour que vous ne l'entendiez plus. Ben, ils ont commencé à gérer ça. Et puis, il y a une méga corpo qui a eu un projet et qui s'est dit je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus complexe, il faut qu'on ait un son qui vienne de l'espace pour pouvoir lutter contre le smoke on the water. Et parce qu'ils ont la thune, parce qu'ils peuvent le faire, ils vont recruter 5 musiciens pour créer un super groupe, The Prism. Ces 5 musiciens, ils ont chacun une vie différente, chacun un ego différent, chacun un caractère différent. Et le tome 1, qui est ce tome d'exposition, nous permet en fait de découvrir ces 5 personnages. Et de te dire, très vite, tu te dis comment ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres. Parce que le but d'un supergroupe, c'est quand même d'avoir un élément de musicalité qui fonctionne bien. Et les personnages sont vraiment assez cool. Et en fait, chaque tome à suivre, dont le tome 2, va s'attarder sur un des personnages. Là, en l'occurrence, le tome 2 nous parle de, j'ai perdu son prénom, de Dorian, le batteur du groupe, et on va nous faire découvrir sa première mission, qui est ce qui s'appelle les réc-missions, où chaque musicien va avoir des moments d'enregistrement sur une zone qui lui sont dédiées. Et c'est aussi l'occasion de faire un flashback sur qui est ce personnage, sur d'où il vient et quelles sont ses motivations et pourquoi il est dans la musique. Et Dorian, il a une particularité, c'est qu'il est d'origine ukrainienne et qu'il jouait dans un groupe avec son frère à Odessa jusqu'à ce que la guerre Ukraine-Russie débarque. Il faut savoir que c'était déjà anticipé au moment de la préparation des ouvrages et que ça a été beaucoup plus facile à localiser puisque la vraie vie rejoint souvent le monde de la fiction. Comment dire, un élément que j'ai pas mentionné. Alors déjà on va parler de la partie graphique et puis je parlerai de l'élément un peu plus particulier. Déjà c'est super beau. Je trouve ça vraiment très bien. Pour moi il y a aucun doute que c'est fait de manière numérique, mais c'est très bien maîtrisé, c'est très propre. Les personnages, ils ont beaucoup de style. Il y a des couleurs qui sont très bien gérées avec des contrastes très forts. L'auteur joue pas mal avec les différents protagonistes sur leurs fringues, leurs coupes de cheveux, et ça marche vraiment trop bien. Tout de suite, les personnages qui sont très caractérisés, on les aime ou on les déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. Le personnage de Dorian, qui est plutôt posé, c'est un personnage que tout de suite on apprend à apprécier parce que il est un peu le lion du groupe et ça, c'est vraiment très très cool, très très fort. Enfin, tu me dis si...
Non, je suis d'accord, j'approuve. Je tourne les pages depuis tout à l'heure. Non, j'aime bien aussi. Alors oui, en effet, un numérique 100%, ça c'est sûr. Mais on a le côté un peu lisse du numérique qu'on retrouve, mais les couleurs, tout est maîtrisé, l'espace et tout, c'est chouette. J'aime beaucoup les combinaisons, ça, ouais. Je trouve ça très classe. Les couleurs ressortent vachement, comme tu disais. Non, ça a l'air hyper agréable à lire et ça donne envie de se plonger dans cette science-fiction. Notamment le vaisseau, qui est plutôt cool.
Ouais, alors c'est un petit truc. Alors, on va vous spoiler parce qu'on le voit très très vite quand même dans le tome 1. Mais il faut savoir que le vaisseau spatial qui va être chargé d'emmener The Prism, le fameux supergroupe, dans l'espace, s'appelle le White Duke. Et il a été designé en forme de basse. Oui, la basse, l'instrument de musique. Et tout, en fait, fonctionne bien puisque on est sur de la science-fiction. Mais l'auteur voulait une science-fiction qui soit réaliste. Donc il a essayé de tirer le truc le plus possible pour que les choses soient cohérentes. Et c'est là où on va pouvoir aller sur le petit point de détail de la BD qui donne toute sa saveur selon moi, c'est que c'est une BD qui ne comporte aucune onomatopée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'auteur considère que mettre un truc visuel pour un son, ça ne collait pas avec ce qu'il voulait faire. Donc, il a utilisé un système. Alors, je veux bien juste que tu me redonnes le nom que tu vois tout début. Non, juste après.
Alors, attends, dis-moi.
Encore après. Tu vas voir, il y a une page où on t'explique. Juste ici. Le Triskelix, c'est ça ?
Triskelix.
Le Triskelix, qui est la façon que va avoir l'auteur de représenter tous les sons à l'intérieur de la BD. C'est une sorte de forme triangulaire qui est un son matérialisé visuellement. Et en fait, avec cette forme triangulaire, la façon dont elle est posée, dont elle est utilisée, nous représente le son. Au départ, on trouve ça un petit peu bizarre. J'avais l'impression que ça allait être un peu tiré par les cheveux. Et en fait, il y a des sons. Quand tu regardes le symbole, comment il est formé, tu te dis, OK, je comprends ce que c'est qu'est ce son-là. Alors, effectivement, t'as le contexte visuel de la BD à côté qui t'aide. Mais il y a une vraie cohérence dans l'utilisation de ce système-là, dans l'album, et ça marche trop bien.
Ah, et puis de ce que j'ai vu, en plus, on pourrait avoir peur que ça puisse surcharger les cases, ce genre de choses, mais pas du tout, en fait, c'est vraiment incorporé dedans.
Et à l'inverse, je trouve que ça dynamise la narration encore plus.
Ouais, là, je tombe sur certaines pages où on voit tous ces symboles en fait qui ressortent, mais c'est ressorti en plus un peu en transparence, et avec la bonne couleur, avec tout ça, et du coup ça immerge vraiment dans la page. C'est bien pensé, hein.
Donc voilà, moi je pense que je l'ai fait passer. C'est un vrai coup de cœur, un vrai bon moment à lire. J'adore le rock, j'adore la science-fiction, un genre qui des fois est un petit peu sous-représenté en BD. Et là, ça marche vraiment très bien. J'ai adoré. Je vois pas quoi dire de plus. Ça me laisse. Il me faudrait un Triskelix pour
Ah oui, le gars. Pour le symbole.
Donc voilà, c'est vraiment un carton. Eh ben, je te laisse redonner les références.
Alors, c'est The Prism de Matteo Delonghis aux éditions Oxymore.
Eh ben, c'est parfait. Un truc qui m'a marqué aussi l'autre fois, enfin en lisant cette BD-là, c'est que ça m'a parlé d'un manga que... Alors, je ne pense pas qu'il y ait une version papier, mais au moins un animé qui s'appelle Catch Oji. Je ne sais pas si tu connais.
Non, je ne connais pas ça.
C'est sous-titré Hard Rock Save the Space. Et c'est l'histoire d'un salaryman qui était un ancien rocker, donc qui a rangé sa guitare. Et un jour, les extraterrestres débarquent, viennent le chercher. Ils disent, c'est ta musique qui peut sauver le monde. Et il va reconstituer un groupe pour aller sauver le monde.
Cool.
C'est un vieux manga, ça a plus de 20 ans. Et la musique m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je vais vous en passer un petit morceau avec Cautionary Warning de John Sykes, qui est le morceau emblématique de la série Catch Oji. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. We'll be right back.
Radio G. 101.5 FM.
Allez, vous êtes de retour sur la case de Seb. Vous venez d'écouter John Sykes et Cautionary Warning, extrait de la bande-son de l'anime Catcho Oji, que je vous conseille, mais c'est pas de la BD, donc on s'attardera pas là-dessus. Là, on va partir sur deux gros bouquins. Pourquoi deux? Parce qu'ils sont tous les deux du même auteur, un auteur que je ne connaissais pas, un auteur de comics américain qui s'appelle Coren Shadmi. Donc ça a été l'occasion pour moi de me plonger dans ces deux ouvrages dont on va parler, qui s'appellent Le Voyageur et La Passe Visage. Ce sont des services de presse, hein, tout comme The Prism, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Et comment dire, Coren Shadmi, il a un style très particulier de dessin. C'est de la ligne claire, c'est très filiforme, les personnages, et il a des visages qui sont globalement statiques, qui sont assez perturbants, avec des yeux souvent très fixes, qui peuvent déstabiliser. J'avoue que quand j'ai ouvert la bouquin, la première fois, je fais « Waouh, est-ce que je vais pouvoir lire ça ?» Et en fait, oui, ça passe très bien, parce que il y a une gestion de la couleur qui est cohérente avec ce que raconte l'histoire, et le fait que les personnages soient un peu figés, bah ça marche bien. Je vois pas comment expliquer ça. Ça roule, mais c'est un peu perturbant. Alors Fabien qui tout à l'heure était la mâchoire tombante sur The Prism, là je sens plus dubitatif.
Oui, un peu plus. En effet, le style du dessin m'interpelle un peu. Je suis un peu moins fan de ça, mais en fait, il est toujours difficile de se faire, je trouve, une idée du dessin tant qu'on n'a pas lu l'œuvre. Parce que souvent, ça, des fois, il y a des raisons, des fois, ça permet de se plonger dans l'histoire d'une autre manière. Mais là, comme ça, de premier abord, c'est moins le style qui me plaît. Mais il y a quand même... attention, hein, je suis incapable de faire ce qu'est fait là. Hein. je suis pas en train de critiquer en disant c'est moche et tout ça. Mais c'est un style un petit peu différent. C'est vrai que c'est très longiligne et puis les personnages restent un peu figés comme tu dis. Et donc c'est assez surprenant, en tout cas à l'ouverture. Après, en lecture, ça peut aussi donner autre chose.
Alors, c'est là où je vais un peu détailler. C'est deux ouvrages de science-fiction. Science-fiction. Le premier que tu tiens dans les mains, donc c'est Le Voyageur. Il y a 176 pages, donc quand je dis que c'est des gros bousins, ça reste quand même des choses assez imposantes. Donc c'est publié, les deux sont publiés chez Marabule. Et Le Voyageur, tout est dans le titre en fait. On suit un personnage qui va voyager. Il se trimballe avec une veste en cuir, un t-shirt et un sac, un grand sac. Tu sais les sacs de marin là, dont on ne sait pas ce qu'il contient. Et il est pris en stop par plusieurs personnes en voiture et il va s'intéresser à ce que ces personnes-là ont à raconter. Encore plus déstabilisant par le côté figé, le voyageur a des yeux avec des pupilles de taille différente. On a l'impression qu'on a une pupille qui est complètement dilatée alors que l'autre est complètement rétrécie.
Oui, c'est ça. Ça donne l'impression presque qu'elles sont pas de la même couleur, en fait. Au début, j'ai cru que c'était pas de la même couleur, mais en fait, t'as raison. C'est qu'il y a une pupille qui est large et une autre qui est toute rétrécie.
Et ça fait, ça donne un sentiment de malaise aussi sur ce personnage-là, dont on ne sait pas grand-chose puisqu'il ne parle assez peu de lui. Et on va le suivre dans ce road trip à travers un monde qui va continuer d'évoluer et qui va nous permettre de comprendre assez rapidement que cet individu est immortel. Il ne vieillit pas. Et il va rencontrer d'autres personnes au fur et à mesure qui vont donner un sens à la vie telle que lui la conçoit et qui aussi, peut-être, sont comme lui, des immortels. C'est ces rencontres-là qui sont intéressantes et qui donnent tout le sel, en fait, à cet ouvrage-là parce que c'est vraiment... on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il a dans ce sac, on sait pas pourquoi. Et je vous rassure, on a une réponse à toutes les questions. Bon, l'auteur est capable de nous en remettre une petite couche une fois qu'on nous a donné des réponses, mais on a les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, et le voyage est plaisant et hyper agréable à accompagner.
Un truc dont je viens de me rendre compte en le feuilletant,
ouais.
Et que j'apprécie, c'est le côté couleur.
Oui.
En fait, qui en fait reste sur le même ton en fonction de l'endroit où il est. J'ai l'impression que ça a l'air d'être ça. C'est-à-dire que pendant plein de pages, on va être sur un ton bleu parce qu'il est à tel endroit. Après, on passe à un autre endroit, on va être sur toute une page avec un ton ocre. Et ces transitions-là, je les trouve sympas.
C'est effectivement, ça marche. C'est exactement ça, puisque chacun de ces voyages, en fait, chacun des moments où il va être embarqué, va avoir une teinte colorée différente. De la même manière, ça permet aussi de se projeter plus facilement dans les moments futuristes et d'avoir vraiment une déconnexion avec notre réalité, puisque les couleurs sont dans des teintes un petit peu plus particulières à chaque fois. Et un point qui est important, on parle de science-fiction dans celui-ci par exemple, on a un dessin science-fictionnel que je qualifierais d'un peu old school. C'est ça fait très
Star
métal
Trek.
Hurlant, très Star Trek.
Ouais, c'est ça, c'est là sur les pages sur lesquelles je suis tombé, on est en plein dans la SF là, ça fait du Star Trek, ouais, c'est ça.
Ça, c'est sans doute dû au fait qu'il ait un dessin qui soit non seulement à la fois sur la ligne claire, mais aussi un dessin qui soit assez rond, mine de rien. C'est pas...
Il n'y a aucun angle, quasiment, mais tout en longueur.
C'est ça.
C'est ça qui est assez étonnant. Mais du coup, ouais, ça fait cette impression d'old school, comme tu dis, SF un peu, Metal Hurlant et puis Star Trek, ouais.
Donc, je vous laisserai découvrir hein, le but de ce voyageur. Allez-y. Clairement, le voyage en sa compagnie vaut vraiment le détour. Et c'est une bonne découverte. Est-ce que tu veux bien prendre le deuxième?
Ouais.
On fera le récap de tout à l'heure.
Ça marche.
Celui-ci s'appelle La Passe-Visage. La Passe-Visage, on peut s'attarder un petit peu plus sur la couverture, puisqu'en fait, on a un personnage féminin, cheveux courts en roux, avec un œil bleu. Elle a une espèce de bombers et sur la droite de la couverture, sa gauche à elle du coup,
ouais.
On a une espèce de roue comme il y a sur les vieux trucs de projection.
Oui, les projections de cinéma, ouais.
C'est ça.
Fait, ouais.
Et il y a d'autres visages dans les cases. Pourquoi la passe-visage ? Eh bien, il faut imaginer qu'on est dans un futur plus proche que ce que va nous emmener le voyageur. Il y a une nouvelle procédure médicale qui permet à certains humains d'avoir la capacité de changer leur apparence physique de façon instantanée. C'est une sorte d'humain augmenté, et ces sortes d'humains augmentés sont surnommés les passe-visages, et on peut louer leurs services par le biais d'applications. On va leur facturer un certain montant, et ils vont prendre l'apparence de quelqu'un le temps déterminé par l'application. L'héroïne, elle est comédienne et elle a choisi de faire cette opération-là pour pouvoir gagner de l'argent. Et en tant que passe-visage, on a une charge émotionnelle qui est très forte, puisqu'on va être amené à endosser le rôle de la petite fille disparue d'un vieux monsieur, le rôle de la collègue de travail de quelqu'un, et avec chaque fois des intentions différentes et des émotions différentes qu'il va falloir arriver à absorber. C'est pas simple. C'est même globalement assez dur, mais l'héroïne, elle essaie de s'y faire. Et en parallèle de ça, elle suit des cours de comédie dans un club, dans une école de comédie. Et elle essaie de relier en fait les deux cordons de sa bourse. Parce que du coup, ça, elle gagne assez peu d'argent quand même. Et ça devient difficile, sachant qu'on voit en filigrane un procès qui va sans doute pouvoir se faire si elle requiert suffisamment la somme d'argent nécessaire pour pouvoir avoir un avocat. Et on voit aussi des petits éléments de sa vie personnelle qui sont pas toujours simples. Elle semble avoir une relation un petit peu difficile avec son ancien mari. Voir sa fille, c'est un peu compliqué. Il y a des moments, il y a des passages avec des personnages où c'est pas très clair. On comprend pas vraiment quels sont les échanges. C'est difficile de pas vous spoiler parce qu'il y a un twist ou deux tout au long de la BD qui sont des moments où on commence à comprendre et on se dit « Ah ok, c'est pour ça !» Et c'est un petit peu déstabilisant à lire au départ parce qu'effectivement, il y a des éléments où on se dit « Ouais mais ça colle pas ça, ça marche pas !» Et quand on a ce petit twist, on recolle tous les morceaux Et alors là, l'effort qu'on a mis pour lire la BD depuis le début, mais c'est une récompense. C'est juste génial. Et graphiquement, parce que t'es en train de le parcourir, c'est assez différent dans la sensation de voyageur.
Exactement.
Le cadrage est différent, les couleurs sont plus uniformes, puisque du coup, on est toujours dans la même temporalité, et ça marche vachement bien, je trouve.
Ouais, c'est complètement différent, et je faisais la remarque la première fois où je l'ai pris tout à l'heure, sans voir même le titre, j'avais dit, donc c'est étonnant, en fait, tout est focalisé sur les visages. Et bah, du coup, quand on a vu, j'ai vu après le titre, j'ai fait, ah bah oui, en effet. Et clairement, la première chose quand on regarde une case, c'est le visage qu'on voit. Et après, on commence à regarder un peu ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, le tour n'est pas forcément très détaillé, finalement. Et les visages le sont énormément. Et chaque personnage a un visage complètement différent.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est assez perturbant aussi, finalement. Différent que le voyageur, parce qu'on n'est pas sur le... Pour moi, on n'est pas du tout sur le même dessin. C'est un autre style, entre guillemets. On reconnaît un petit peu la patte de l'auteur. Mais là, il a voulu montrer vraiment autre chose. Et d'ailleurs, ça se voit pas mal de moments quand elle s'entraîne en tant que comédienne où on a plein de mini-pellicules de son visage, mais avec d'autres différentes formes, différentes émotions. Et du coup, c'est encore autre chose à découvrir. Et ouais, c'est perturbant aussi un peu sur la façon dont c'est fait. Et ça éveille la curiosité.
Ouais, et l'histoire est extrêmement bien construite, je trouve. Ce qui fait que c'est un bouquin qui est déstabilisant sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit au départ. Et on se dit, waouh, où je vais? Est-ce que ça va m'intéresser? Faites l'effort. Il y a 192 pages, donc ça reste un gros bouquin, mais ça vaut largement le coup, et émotionnellement parlant, c'est très intéressant.
Ok. En tout cas, ça donne envie de voir clairement ce que ça donne à la lecture, quoi.
Eh ben, écoute. Je te laisse redonner les références.
Ouais, donc c'est La passe visage de Koren Chadmi aux éditions Marabule. Et avant, c'était Le Voyageur de Koren Chadmi aussi, et aussi aux éditions Marabule.
Eh ben merci. That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. On a passé une heure qui est passée très vite aussi en votre compagnie. On se fait un récap rapide. On a parlé du coup du Voyageur et du La passe visage de Koren Chadmi aux éditions Marabule. On a parlé des enfants d'Hippocrate de
Toshiya Higashimoto aux éditions Mangetsu.
On a parlé de L'Enfantôme de Jim Bishop aux éditions Glénat, de Mamie Roquette de Patrick Werbleit et Stéphane Lomp aux éditions Sarbacane, de La Forêt d'Oreca de Paco Sordo aux éditions Dupuis, et mon coup de cœur du jour, The Prism de Matteo De Longhis aux éditions Oxymore. Eh ben parfait.
Encore une bonne soirée de passé.
Bah ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, nous, ça a été un plaisir. Et puis, on se retrouve... on va se dire au revoir déjà.
Voilà.
Et puis, on se retrouve dans 15 jours.
15 jours ? Non, vas-y, je t'en prie.
Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Bah, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku Oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touf.
Batman. Trompez vite. Tu n'es pas chez toi ici.
Justement. Les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Should have closed my eyes. I should have closed my eyes. But it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Yeah, it was so bright.